Vous écoutez Radio Électron Libre. Bienvenue dans Info ou Intox, une émission présentée par Vincent. Info ou Intox, 60 minutes pour s'interroger. 60 minutes durant lesquelles nous allons ensemble procéder à un décryptage de l'actualité. Info ou Intox sur Radio Électron Libre, nous sommes ensemble pour 60 minutes.
Eh bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Électron Libre pour ce direct. Nous sommes le jeudi 17 avril 2025, il est exactement 19h00 et 43 secondes à mon horloge. Un temps légèrement humide, légèrement neigeux pour certains. Un petit coucou à nos amis valaisans qui trouvent et retrouvent le bonheur de la neige. Hein. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous proposer quelque chose, une revue de presse classique, ni de savoir si c'est vrai ou si c'est faux dans cette émission Info ou Intox, version XXL, 60 minutes pour s'interroger. On va se poser des questions quand même sur certaines, on va dire, actions, réactions, et le sujet du jour vont être, comme souvent, des articles parus dans la presse, ou bien des dires de certains ou des comportements d'autres qui font qu'on a de quoi s'interroger, se poser des questions sur le pourquoi du comment. Alors un merci aussi du fond du cœur à ceux qui contribuent et qui permettent à la radio d'exister. Hein. Le 1er mai, ça fera 4 ans. Et oui, ça fera 4 ans qu'on essaye de secouer le cocotier. Et puis les noix de coco tombent, mais tout doucement, gentiment. Enfin, on espère, en tous les cas, ça bouge, c'est quand même positif. Alors merci à ceux qui font en sorte que depuis 4 ans, la radio existe. Pour ceux qui veulent faire un don, parce que ne pensez pas que les autres vont faire des dons, etc., faites-le, sinon rien ne se fait. Alors vous pouvez retrouver, bien sûr, comme d'habitude, sur le site internet de la radio, électronlibre.ch, en bas de la page d'accueil, toutes les coordonnées et possibilités pour ce faire. On a l'IBAN, on a le Twint, on a PayPal, etc. Vous avez le choix, tout en sachant que certains prélèvent, moi, ce que j'appelle une taxe punaise de lit. Et oui, les vampires sont partout. Alors, on va commencer cette émission avec un sujet ce soir assez rigolo quand même, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Je m'attendais à quelque chose de très clair de la part de nos autorités. Mais en fait, nos autorités se foutent de notre gueule largement. Et puis, mentent, par omission, quoi. Hein. C'est quand même un peu gonflé, c'est quand même un peu culotté de dire que les citoyens ne doivent rien cacher, mais eux cachent tout. Alors on va commencer fort parce que moi je m'interroge. Pourquoi les institutions publiques censées servir le peuple, la population, en toute transparence, nous servent-elles des communiqués de presse qui sont l'omission à des kilomètres? Eh oui, on peut s'interroger. Un exemple croustillant qui vient de sortir du site de l'armée suisse le 15 avril, donc il y a deux jours, d'accord, ils annoncent l'exercice Trias 25 en Autriche. Objectif, tester l'avenir des forces terrestres. Alors nous avons des noms bien suisses derrière tout ça, le commandant, etc., le sous-chef, machin, le petit truc qui est donné là. Et puis tout ça s'est bien présenté, donc une opération qui a l'air de fleurer bon la neutralité helvétique. Sauf que, oups, eh bien, ils ont largement oublié de mentionner un détail. Eh bien, cet exercice, ce cours de répétition, comme on pourrait dire, où il y a des volontaires, c'est plus d'un millier de militaires qui vont se retrouver en Autriche sur une place d'armes, eh bien, ils ont oublié de mentionner un détail tout petit. Cet exercice s'inscrit dans Joint Viking 25. Et qui est-elle? Une grande manœuvre de l'OTAN. Eh oui. Eh oui, c'est une grande manœuvre de l'OTAN. Hein, d'accord. Alors la Suisse neutre, alors la neutralité, là, elle ressemble plutôt à un couteau multifonction. Mais bon, on a de quoi s'interroger. Est-ce que la Suisse fricote avec l'OTAN? Alors, Malgré ce que certains ou certaines ont pu dire, hein, ah oui, ah merde, on est neutre. Ouais, elle l'a dit, ah merde, l'a dit. Eh oui, ah merde, l'a dit, on est neutre. Ouais, ben, ouais, bon, qui aussi est neutre. Hein. Enfin, voilà. Donc, c'est une grande manœuvre de l'OTAN, mais ça, l'article n'en fait pas motion. Et c'est volontaire. C'est volontaire, absolument volontaire. Alors, il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas de machin, ce sera très truc, très, très trié. La presse est interdite sur place. Ouais, ben oui, vous m'étonnez. Il faudrait mieux éviter, hein, quand même. Parce que ça serait trop visible de voir des Allemands, des Autrichiens, etc. Manger une fondue, hein. Ouais, ça fait vachement neutre, tout ça. Hein. En fait, je vous laisse vous renseigner sur Juin Viking 25, donc une grande manœuvre de l'OTAN, d'accord ? Donc, exercice Trias 25, hein, eh bien, rentre dans les systèmes de défense de l'OTAN où, pour résumer, selon l'article, je crois, 5 du règlement de l'OTAN, c'est si un de nous se fait attaquer, tous les autres doivent réagir. Voilà. Donc la Suisse, c'est comme si elle faisait partie de l'OTAN. Alors, soi-disant, plein de blabla en expliquant que ça permettra de mieux faire, etc., de mieux organiser. Mais ils oublient des détails, des fois, qui sont quand même assez étonnants. Hein. Et oui, assez étonnants. Moi, ces mensonges par omission commencent légèrement, de un, à m'interroger sur le pourquoi du comment on se permet d'oublier, hein, un fait important. Hein. Et puis, de deux, commencent sérieusement à m'énerver. Parce que, à force de nous prendre pour des cons, ils vont avoir un retour de manivelle qui risque d'être pas piqué des hannetons. Eh oui, les mensonges, on prend toujours les mêmes et on recommence chaque fois, d'accord. Alors, notre deuxième sujet du jour, eh ben, radio, vous avez dit radio, oui, radio électron libre. Nous ne sommes pas sur la FM, non, nous n'avons pas les moyens d'être sur la FM, et encore moins, hein, d'être sur le DAB+, mais figurez-vous que nous ne sommes pas les seuls à ne pas être ou à ne plus être sur la FM. La SSR, la radio-télévision suisse publique, a décidé, hein, de basculer depuis le début de l'année, là, depuis un mois, je crois, si mes souvenirs sont justes, de tout basculer en DAB+, et de boucler ses émetteurs FM. Alors, Pascal Descaillet, qui est un vétéran de la radio, hein, notamment à la Radio Romande, eh bien, s'offusque et dit, mais rétablissez la FM, rétablissez la radio suisse. Hein. Oui, rétablir la radio suisse, mais, stop. Moi, je veux bien qu'on la rétablisse, la radio suisse romande, la radio suisse allemande, la radio suisse romanche et suisse italienne. J'ai pas de problème par rapport à ça, sauf pour le contenu. Alors, qu'on rétablisse la FM pour la radio, je suis d'accord. Oui, parce qu'il paraît que les chutes d'audience, hein, eh bien... sont vraiment vertigineuses parce que les gens n'écoutent plus. Hein. Bah oui, il fallait équiper les véhicules à la maison. Tout le monde doit s'équiper d'un récepteur DAB+. Et peu de gens, certains en ont, certains en ont pas. Et puis les gens ont envie de zapper et changer, comme nous explique Pascal Descaillet dans son blog. Eh bien, il nous explique que les gens ont envie de zapper sur d'autres chaînes. Voilà. Alors c'est bien dommage parce que comme ils le stipulent, eh bien ils sont en train de foutre en l'air. Oh ben c'est pas ça c'est pas ça fait un moment que ça dure qu'ils foutent en l'air le tissu social, le tissu relationnel entre les gens, etc. Ben oui, la radio avait quand même et a encore, hein, malgré tout ce qu'on peut dire, un rôle aussi social, un rôle aussi de contact humain, voilà, qu'on est en train de foutre en l'air et qu'on fout en l'air depuis des années. Avec des excuses bidons, hein, soi-disant technologiques, etc. En fait, ils amputent tout simplement le tissu social. Et puis, qui décide de tout ça ? Ben oui, la SSR, financée par vos redevances, chers auditeurs et auditrices. Et oui. Qui vous explique que c'est pour votre bien ? Vraiment ? Vous êtes sûr que c'est pour votre bien ? Réfléchissez, posez-vous la question. Ou est-ce une façon de contrôler l'info, de réduire les voix dissidentes ? Info ou intox, la fin de la FM, progrès ou sabotage ? Alors, je ne sais pas, moi, hein, cherchez vous-même la réponse, mais pour moi, personnellement, hein, la réponse, eh bien, elle est déjà toute faite. Électro-libre.
libre.
Radio Gaga Queen, pour illustrer le propos d'avant, voilà. On va partir sur un troisième sujet qui est assez vaste, c'est la magie des signatures et la poste suisse. Oh, mesdames et messieurs, voici une histoire digne d'un polar helvétique. Plusieurs milliers de signatures pour un référendum contre l'EID disparaissent mystérieusement dans un bureau de poste à Zurich. Pouf, volatiliser les signatures. Une plainte a été déposée, j'en ai déjà parlé la semaine passée, mais la question qui de plus en plus brûle les lèvres et certains cerveaux, c'est « et si ce n'était pas un accident ?» Et si, à chaque fois qu'un référendum ou une initiative dérange les lobbies bien installés, des signatures se perdaient dans la nature ? La Poste Suisse, qui normalement est garante de la démocratie directe, etc., serait-elle un peu trop magique ? Qui profite de ces disparitions ? Les citoyens ou les puissants qui n'aiment pas qu'on leur dise non ? Info ou intox ? Simple erreur ou coup monté ? Ah, là, il va falloir jouer les détectives de la vérité. Car vraiment, ça interroge. Ça interroge aussi le système de communication des différents comités qui sont à la base de ce référendum contre l'EID. Nous avons le mouvement fédératif romain, nous avons le parti pirate, nous avons les amis de la Constitution et nous avons Masvoll et son président, toujours avec un gros cigare dans les pattes ou dans le museau, d'accord, qui, M. Rimoldi, qui, lui, maintenant, passe sous les radars. C'est assez étonnant, dans les communiqués de presse qui sortent pour nous annoncer à grand renfort que le référendum va pouvoir être voté, stop. Pour l'instant, la chancellerie fédérale n'a rien compté. Eh oui. Alors, malgré des signatures égarées, hein, volatilisées, disparues, on peut s'interroger après sur le système de communication. Pourquoi ? Parce que, tout à coup, dans tous les communiqués de presse, plus un mot sur Masvoll. Et on essaye de faire passer son président, etc., pour une personne avec un ego surdimensionné et blablabla. Et si cette histoire était simplement montée de toutes pièces pour diaboliser Masvoll et son président Rimoldi ? Ah ben oui, ça arrangerait bien tout le monde. Parce que de plus en plus de gens adhèrent à Masvoll. Eh oui. Alors, c'est vrai qu'on peut remettre en question les stratégies de communication du président de Masvoll, M. Rimoldi, qui dénonce beaucoup de scandales, qui a peut-être un ego un peu, on va dire, surdimensionné. Mais, moi, je m'interroge sur ce jeu qui permettrait, d'une part, de, on va dire, faire échouer le référendum contre l'EID, hein, et d'autre part, de lapider au passage Nicolas Rimoldi, président de son association Masvoll. Encore une fois, vous allez me dire que Vincent, tu réfléchis trop loin. Je ne pense pas réfléchir trop loin. Une pierre deux coups, comme j'ai dit avant, hein, on peut lapider, voilà. C'est pernicieux, mais plausible. Car je ressens que si le peuple doit voter, ça risque de foutre un sacré bordel à la mafia. Imaginez-vous, en moins de 5 ans, deux fois le peuple aurait dit non à l'EID. Et là, la mafia verrait son château de cartes de contrôle et de domination s'effondrer tout bonnement. Alors, pour revenir au début de ce sujet, est-ce pour cela que la mafia et ses serviteurs zélés vont jusqu'à escamoter des signatures directement dans les ou les bureaux de poste au risque de se faire prendre la main dans le sac, ce qui est le cas. La mafia, c'est les enjeux. Et vous, est-ce que vous les savez, les enjeux de cette EID ? Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites dans les médias mainstream. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont parlé vraiment, je pense à Michel Gaillet du mouvement fédératif romand, qui, pour la Suisse romande, a expliqué les choses de manière très claire, même à des micros francophones, à d'autres micros de nos collègues francophones, des médias, comme qui diraient certains, dissidents. Non, Michel Cayet s'est bien exprimé et a bien dit les choses. La présidente du mouvement fédéral du roman a bien expliqué les enjeux, le pourquoi du comment. Cette EID est dangereuse à tout point de vue pour la population suisse et puis ailleurs dans le monde aussi. Hein. On pousse à cette identité électronique qui fera que vous serez des esclaves, messieurs, dames. Et oui, n'ayons pas peur des mots. Vous serez des esclaves. Vous ne pourrez plus vous lamenter ou quoi que ce soit, vous ne pourrez plus rien dire, rien faire. Si vous voulez retirer plus de 300 euros sur votre compte en banque, vous ne pourrez plus. Si vous voulez signer un formulaire justement pour le référendum, vous ne pourrez plus, si vous n'avez pas votre EID, signer le référendum. Est-ce que derrière toutes ces magouilles, on peut appeler ça des magouilles de disparition de signatures, d'erreurs de communication entre les différents comités? D'accord. Donc je pense que derrière, il y a des gens qui, je ne sais pas, je n'ai pas les noms, hein, je ne les connais pas personnellement, mais je pense que derrière, il y a des gens qui volontairement, veulent saboter ce référendum. Alors, on peut s'interroger, mais oui, monsieur Vermeil, comment, machin, vous ne pouvez pas dire ça, c'est... Et moi, je me pose la question parce que dans un communiqué de presse qui a été repris par le Blick cet après-midi, la dernière phrase du communiqué de presse est très claire et moi me met la puce de plus en plus à l'oreille. La dernière phrase est la suivante. La chancellerie fédérale examinera ensuite les signatures et dira si le référendum a été officiellement validé. Pour moi, ça devient purement et simplement très très clair. C'est-à-dire qu'on a, factuellement, des gens qui tirent un peu dans les pattes des uns des autres, notamment pour démolir le mouvement Masvoll et son président, d'accord ? Mais, dans la finalité, moi, en tous les cas, les paris sont ouverts que la chancellerie risque d'invalider le nombre de signatures parce qu'elle va faire du zèle pour les contrôler ce coup-ci. Et puis derrière, avec tous les communiqués de presse qu'il y a eu, etc., en disant « oui, mais c'est passé, c'est accepté, etc., on va pouvoir faire le référendum, on va pouvoir voter, la population va pouvoir voter, encore une fois, contre l'EID », eh bien, si le nombre de signatures ne correspond pas, si la chancellerie dit « non, il manque un millier de signatures, par exemple », et le CF, donc le Conseil fédéral et compagnie, hein, viendront évidemment devant toutes les micros et les caméras des médias mainstream dire à la populace « Non mais maintenant, vous comprenez pourquoi il faut l'EID et que c'est primordial et que c'est important que cette EID soit mise en place parce que ça évitera justement ce genre de problème. » Alors moi j'appelle ça des escrocs et des bonimenteurs. D'accord ? Et le problème qu'on a encore, et que j'ai déjà dit et expliqué plusieurs fois, c'est que derrière tout ça, certains élus et fonctionnaires intègres qui pensent vraiment bien faire leur travail ne se rendent même plus compte tellement la corruption a tout infiltré et tout détruit. Ils ont légalisé des choses qui n'auraient jamais dû être légalisées. Et ils ont mis en place petit à petit, voilà, tout le système qui permet à un moment donné ou à un autre de justifier telle action ou telle inaction de la part du gouvernement. Et on a de plus en plus... Alors, je ne sais pas de quel fait ça vient. Je pense que ça vient aussi du doute de la population, surtout du constat de la population, notamment avec le Covid, de voir leurs voisins, voisines, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, soit décédés, soit à cause des injections létales, hein, j'appelle ça des injections létales et plus des vaccins, puisqu'ils ne protègent de rien du tout. Donc, soit décédé, soit être gravement malade, avoir des turbo-cancers, etc. Et là, quand on touche à la vie, hein, donc à la base de la vie, évidemment, il y a des interrogations. Et de plus en plus de gens commencent à s'interroger sur tout ça, et surtout sur le fait que, par exemple, hein, on puisse acheter pour plus de 2 milliards de vaccins, et puis qu'on en foute 1,5 milliard à la poubelle. D'accord ? Donc là, il y a encore des interrogations qui se sont posées et les gens commencent à gentiment dans leur tête, eh bien, comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas du tout. Alors, on peut tourner ça dans tous les sens, Mais il y a, moi je le dis de manière un peu rigolote et amusante, hein, il y a baleine sous gravier. Oui, c'est l'inverse de anguille sous roche, vous voyez. Il y a baleine sous gravier, voilà. Là, c'est plutôt même du gravillon. Ça commence à devenir tellement gros, tellement, tellement gros, les mensonges, par omission, les manipulations, etc., qu'à un moment donné, hein, ben, il va falloir que ça change. Donc, c'est soit ces gens dégagent avec un grand coup de latte au cul, soit la population les fera dégager. Je vous donne un autre exemple. On a des dealers partout en Suisse. On a eu des élus qui, de bonne foi et de manière juste, ont, donc juste raison, ont dénoncé dans certaines villes l'ampleur du deal de rue, l'ampleur des dealers dans la rue, etc., et tous les problèmes que ça engendre pour la sécurité du citoyen. Que, je vous rappelle, l'État doit, on paye les gens, hein, on paye les impôts, des taxes, etc., pour justement vivre en sécurité. Et là, ce n'est plus du tout le cas. Par contre, paradoxe complet, vous avez des dealers dans toutes les villes, mais quand vous avez 50 caravanes qui se retrouvent sur l'autoroute, là, on mobilise, notamment en Valais, il y a deux jours ou hier, on mobilise la police, des forces de police extraordinaires pour empêcher, donc on bloque l'autoroute hein, pendant quelques heures, on bloque l'autoroute et on empêche ces caravanes d'aller en Valais. Ah, ils avaient peut-être peur parce qu'ils se sont dit il va neiger demain, donc aujourd'hui, cette nuit, ils risquent d'être emmerdés, ils n'ont pas les chaînes. Alors, il ne faut pas qu'ils viennent en Valais. Alors, encore une fois, moi je m'interroge, comment on est capable, en l'espace de quelques heures, hein, de mobiliser pas mal de policiers? Hein, de bloquer l'autoroute, ah oui, de bloquer les sorties, deux sorties d'autoroute, etc. C'était le gros dispositif. Et puis, comment ces mêmes autorités sont incapables de mettre un arrêt, un point final, si possible, hein, aux deals de rue, etc. Ça m'interroge. Voilà. Est-ce que, encore une fois, les élus hein, fonctionnent à géométrie variable en fonction que ça les dérange ou que ça les arrange? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je me pose la question et je vous invite aussi, à vous poser la question de savoir à un moment donné sur quel pied danser et surtout d'avoir des explications de la part des autorités sur cette géométrie variable où d'un côté, des années qu'on dénonce le dealer de rue, rien n'est fait. Mais par contre, quand 80 caravanes débarquent, de gens du voyage débarquent tout à coup pour rentrer dans un canton, on leur bloque littéralement la route, l'autoroute. Voilà, à grands coups de voiture en travers, de voiture de police. Les photos, les vidéos sont très, très explicites, d'accord. Alors, je ne vois pas pourquoi la police ne pourrait pas faire la même chose. Alors là, on parle des Valaisans, hein, mais ils ont été accompagnés des Vaudois quand même. Mais faire la même chose, par exemple, pour les Valaisans, en ville de Martigny, en ville de Sierre, en ville de Sion, et dans tous les endroits où le deal de rue provoque insécurité, violence, tapage diurne, tapage nocturne, etc. Plus derrière, parce que ça, on en parle très peu, des dégâts psychologiques, physiques, des décès, etc. Là, il n'y a personne qui se bouge. Mais, hein, je trouve ça aussi paradoxal si je prends l'exemple de, par exemple, d'Adrien de Ritmaten, qui lui est toujours en grève de la faim. Alors, vous allez me dire, depuis le temps qu'il est en grève de la faim, il n'est pas décédé. Alors, il a dit qu'il ne mangeait plus de solide, il se nourrit de produits vitaminés, de boissons vitaminées. Voilà. Mais il est toujours en train de se battre contre les mensonges flagrants, exposés, hein, de la police, soutenus par quelques élus derrière, par quelques fonctionnaires. Voilà. Mais on lui interdit toujours d'avoir le droit, en tant qu'handicapé, à faire valoir ben, voilà, ce qu'il a droit en tant qu'handicapé quand les handicapés sont confrontés au service public. Il demande juste ça, il demande qu'on reconnaisse ce droit-là. Mais non, voilà. On l'a arrêté, tabassé, on n'a pas pris compte, on l'a torturé même. Hein. Oui, les mots sont forts, mais ils sont bien là. Hein. Je vous laisse aller lire, même si on a essayé de la modifier, la définition de la torture, et vous verrez que c'est pas loin, d'accord. Alors, soi-disant que, par exemple, hein, l'État du Valais disait dans cette histoire-là qu'il n'y avait pas de caméra, alors que les caméras sont installées. La preuve, c'est que M. de Ritmaten a en sa possession les vidéos qu'il a partagées, du reste, sur Internet. Donc, voilà, il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi s'interroger, où on a deux poids, deux mesures. toujours, c'est toujours dans ce sens-là. On a deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que cache, encore une fois, toutes ces magouilles, toutes ces non-dits, qu'est-ce qui est planqué derrière tout ça? C'est assez surprenant, mais pourtant c'est une réalité que les gens doivent entendre. Eh oui, que les gens doivent entendre. Il faut arrêter de mettre la tête dans le sable et de dire « Non, non, il n'y a rien qui se passe. Non, non, on a escamoté des bulletins de vote, des signatures, des feuilles de signature dans un bureau de poste à Zurich. Et une plainte a été déposée. Est-ce que vous avez vu un sujet là-dessus à la RTS ? Non. On préfère vous annoncer faussement, par exemple, la RTS préfère vous annoncer faussement, que c'est bon, l'accord de l'OMS... par rapport à ce que tout le monde, que l'OMS puisse prendre le droit de vacciner tout le monde et d'imposer son truc, a été signé. Ce n'est pas encore le cas. Les accords ont été approuvés comme ça par certains partis, par certains pays, mais l'accord final n'a pas été lui signé. Et en plus, ils ont dû se fendre d'un texte, rajouter un texte, en expliquant que ces accords, effectivement, n'entraveraient pas la souveraineté des pays signataires. Alors, par un biais détourné, on va quand même pouvoir, à un moment donné, soi-disant, pour cause de pandémie, faire croire qu'il faut vraiment tout arrêter. Donc là, ce sera non seulement l'OMS qui sera complice, mais ce sera aussi les dirigeants des pays. Ne pas oublier que, par exemple, en Suisse, nous sommes toujours en état d'urgence. Ah, vous ne le saviez plus, vous avez oublié. Ah, si, 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 si. On est encore pour quelques années en état d'urgence. Alors, on ne sait pas où elle est l'urgence, hein, mais on est encore en état d'urgence, voilà. C'est quand même extraordinaire. Alors, à la suite de tout ça, vous allez me dire, oui, mais bon, quand même, c'est quand même un peu gros. Si tous les pays ont accepté cet accord, c'est qu'il est bon. Eh bien non, Ça ne veut pas dire parce que des pays ou des gens corrompus, des représentants de gouvernement dans certains pays, corrompus par Big Pharma, acceptent certains textes, ça ne veut pas dire que c'est bon. Pour la population. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'on a des services publics, on a des services de santé publique, on a des services d'enseignement, l'université, l'école, etc., qui sont mis comme services publics. Et je ne vous parle pas d'un système communiste, avec une idéologie communiste derrière. Pas du tout. Non. Et puis, pour illustrer mon propos, je vais vous parler d'une entreprise. Et on parle d'avant 1900. Donc pour vous dire, hein, avant 1900, c'était au 19e siècle, et encore, peut-être même avant, mais en tous les cas, je vais vous parler d'une entreprise qui, elle, et c'est pour ça les services publics, ça va vous apporter peut-être un début de réflexion sur le sujet du fait que on a créé, nos ancêtres ont mis en place des services publics. Ce n'est pas pour rien, d'accord ? Alors, j'ai fait quelques recherches. J'ai fait quelques recherches sur une entreprise qui, à l'époque, appartenait à la famille de l'ingénieur Guillaume Ritter. Vous allez me dire, qui est Guillaume Ritter ? Ah ! Eh bien, c'est, on va dire, celui qui était avant les entreprises électriques fribourgeoises. Les plus vieux d'entre vous, peut-être, connaissent ces trois lettres, E et F, entreprises électriques fribourgeoises. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette entreprise et vous allez comprendre qu'à un moment donné, nos ancêtres ont décidé, d'accord, de mettre en place des services publics et pas pour rien. Alors, à la fin du 19e siècle, on pose les bases des EFF, avec, on va dire, c'est pour la gestion, l'exploitation des forces hydrauliques dans le canton de Fribourg, notamment le long de la Sarine et de la Jaugne. L'administration cantonale des eaux et forêts, hein, prend le contrôle des installations qui, à l'époque, appartenaient à l'ingénieur Guillaume Ritter, incluant les barrages et l'usine hydroélectrique de la Mégrauge, qui ont été construites, accrochez-vous bien, en 1873. Et pourquoi ils reprennent ça ? Eh bien, parce que ça a fait faillite. Oui, vous avez bien entendu, ça a fait faillite. Donc, ces infrastructures deviennent la propriété de l'État fribourgeois Et puis, ça marque ainsi le début d'une gestion publique de l'électricité dans le canton. Vous avez bien entendu, une gestion publique de l'électricité dans le canton. En 1893, d'accord, on effectue des transformations à l'usine de la Maigrauge, hein, qui se modernise pour répondre aux besoins croissants en énergie. Les bénéfices de l'entreprise des eaux et forêts sont affectés à l'entretien de la faculté des sciences de l'université de Fribourg, renforçant les liens entre l'État et le secteur énergétique. Bonne idée, non ? D'appliquer au niveau de la recherche, etc., les bénéfices de voilà. Donc là, on a un bon concept qui permet d'injecter dans la formation, etc. Voilà. C'est une bonne idée. En 1902, alors, installation de la centrale hydraulique de Tuzy-Hautrive, suivie en 1910 par l'usine d'Holberg, qui remplace les installations obsolètes de la Maigrauge. Après d'autres usines, hein, on a Mauvauvon, Châtel-Saint-Denis, je crois, puis il y a aussi une, je crois, vers Romont, qui sont créées, hein, et puis qui permettent bah, de produire plus d'électricité pour le canton, pour les habitants, etc. Alors, les propriétaires, d'accord, hein, donc des infrastructures, etc., sont directement gérés par l'État de Fribourg, d'accord, via le service d'administration des eaux et forêts. Et il n'y a pas d'entité, on va dire, d'entreprise indépendante comme les EEF, pour l'instant, qui existent. Et aucune structure d'actionnariat privé n'existe non plus. L'État est le seul propriétaire et les décisions sont prises dans le cadre de l'administration publique. D'accord ? Et on va continuer. Tout à coup, naissance en 1915 des entreprises électriques fribourgeoises. Les fameuses, la fameuse EEF. D'accord. Alors la fondation, elle se fait officielle et puis ça regroupe les différentes installations, donc la Maigrauge, Holberg, Hautrive, Montbovon. Et puis, donc tout cela se met en place et en 1917, les EEF sont créées, voilà, comme une régie d'État. Il faut bien le préciser, d'accord, c'est une régie, les EEF sont une régie d'État à l'époque, sous le régime du droit public, mais avec une grande autonomie opérationnelle, comparable, mais ce n'en est pas une, à celle d'une société anonyme. Cette structure permet une gestion flexible, tout en restant sous contrôle cantonal. Alors bien sûr, comme c'est un contrôle cantonal, l'État leur donne des, on va dire, des cahiers des charges concernant la distribution d'énergie, etc. Et puis surtout pour assurer, on va dire, l'essor économique du canton. D'accord. Alors, il y a une exploitation encore accrue du bassin de la Sarine, etc. Et puis, on va dire, les EEF deviennent un acteur clé dans l'industrialisation et l'électrification du canton. D'accord. Donc, les EEF sont toujours sous contrôle de l'État fribourgeois, qui en reste propriétaire exclusif. Et leur impact sur la vie publique, tant politique qu'économique, est majeur. Ils sont perçus comme le visage de l'État pour les fribourgeois dans leur quotidien. À ce niveau-là, il n'y a aucun actionnariat, il n'y a rien du tout. L'État de Fribourg détient 100% des EEF. Voilà. Alors, il a été difficile, d'après ce que j'ai pu essayer de fouiller, de savoir qui exactement dirigeait à l'époque, le nom des gens qui dirigeaient à l'époque ces EEF. Hein. Mais bon, on sait que de 1918 à 1921, ils ont encore mis en avant la construction de barrages à Mont-Salvan. Et puis, ce projet de barrage à Mont-Salvan, qui a été inauguré en 1921, a augmenté les capacités de production hydroélectrique des entreprises, donc des EEF, et puis a permis encore d'augmenter les possibilités industrielles cantonales. Entre 1930 et 1950, eh bien là, on a eu toute l'histoire de l'électroménager qui est venu se greffer dessus. Et les EEF diversifient en investissant dans la vente d'électroménager. On avait des magasins EEF. Il y en avait un qui était au boulevard Pérol, que tout le monde, le boulevard de Pérol à Fribourg, que beaucoup de personnes qui ont plus de 40 ans ont connu. hein, plus de 40, 50 ans, ont connu avec ces enseignes, cette enseigne qui était rouge, c'était marqué EEF dessus. Voilà. Où ils vendaient des cuisinières, de toutes sortes de produits électroménagers. Et puis, c'était pour l'époque, hein, qu'une entreprise comme ça étatique se mette à promouvoir des produits industriels. C'était assez innovant. Puisque, anecdotiquement, il paraît qu'en 1943, ils ont présenté la première cuisinière électrique à Anneau Mobile, à Bâle. D'accord. Et puis, on avait aussi une entreprise qui s'appelait Sarina qui fabriquait des cuisinières, etc. Alors, ils sont passés aussi au chauffe-eau, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Mais bon, tout le monde était content de ces entreprises qui étaient fribourgeoises. Tout le monde était fier. C'était un petit bout de chaque citoyen fribourgeois, parce que ben voilà, c'était l'État toujours qui gérait tout ça et tout allait bien. Eh oui, tout allait bien. Les EEF étaient une espèce de clé politique, économique, cantonale. Et puis, ils ont, grâce à tout ça, ben, soutenu l'électrification des zones rurales et toujours l'industrialisation. Et puis, dans les années 60, ils ont encore évolué avec, cette fois-ci, on a un nom, Joseph Ackermann, qui était le directeur en 1961, le directeur des EEF. Il présente l'historique des barrages sur la Sarine et puis il fait connaître le travail assez fantastique de cette entreprise qui, je rappelle, est toujours une régie d'État. Voilà. La régie d'État, la régie publique, n'a pas ne distribue pas de concessions ou de quoi que ce soit d'étranger à son fonctionnement, puisqu'elle est propriétaire d'absolument tout, de tout ce qui produit de l'électricité dans le canton, au niveau notamment hydroélectrique. Alors, on continue, tout va bien. Année après année, on arrive en 1990. Et puis là, on commence. Ça commence à sentir un peu le caca, puisqu'on a les premiers partenariats et puis la préparation. Vous savez, à la même époque, on faisait la même chose pour la Poste suisse, hein, et la libéralisation. Alors, en 1990, pour les 75 ans de la création des EEF, ils ont mis en avant leur rôle et le développement énergétique du canton. Et puis ils ont dit, ah oui, mais on pourrait, tel un élève dans une classe qui lève la main mais qui n'ose pas demander pour aller faire pipi, hein, s'associer avec avec le canton de Berne. Seulement, au canton de Berne, ils avaient déjà pris de l'avance, et puis il y avait BKB, FMB, Énergie, SA. C'était une SA à Berne. BKB, FMB, Énergie, SA. Voilà. Alors, ils ont dit, ouais, d'accord, alors on accepte que les EEF détiennent 5% de BKB. Et puis, inversement, et c'est là que ça commence à devenir bizarre, BKV, par contre, prend lui 10% de part dans les EEF. Alors, soi-disant que ce partenariat vise à renforcer les plateformes, hein, commerciales, marketing, informatique, tout en préservant, soi-disant, l'autonomie des deux entités. Et puis, l'État fribourgeois, à ce moment-là, reste le principal propriétaire. Mais la participation de BKV, donc des 10%, introduit un actionnariat minoritaire externe. Et c'est là que ça commence à déconner. Les EEF ne sont pas encore une société anonyme, mais leur structure évolue vers plus, entre guillemets, d'ouverture. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ouverture, mais en tous les cas, ça bouge, et gentiment, on arrive en 2001. Et alors là, coup de tonnerre, d'accord ? Les EEF, en 2001, passent du statut de régie d'État à celui de société anonyme. Voilà. Et soi-disant, ça, au nom de la modernisation. C'est quand même étonnant. D'accord ? Donc, jusqu'à présent, tout avait bien fonctionné. Mais depuis 2001, entre 1990 et 2001, donc en 10 ans à peu près, eh bien, cette entreprise s'est retrouvée, hop, cette régie fédérale, cantonale, pardon, s'est retrouvée, régie d'État cantonale, s'est retrouvée tout à coup en SA en 2001. Voilà. Et tout ça, encore une fois, c'est pour votre bien-être, messieurs, dames. Oui, c'est comme les injections létales. Quand vous transformez, c'est pour sauver papi, mamie. Ouais. Moi, je vous garantis, c'est ce qu'ils disent, hein, d'accord. Alors, ils ont tout à coup décidé de fusionner. Oui, mais pas avec n'importe qui, avec l'ENSA. C'est une électricité neuchâteloise SA. Eh oui. Donc, voilà. Alors après, ils ont élargi le groupe, d'accord. Et puis, tout à coup, ils courent maintenant non plus Fribourg, mais aussi Neuchâtel. Alors, le canton de Fribourg conserve une participation majoritaire, 80%. BKV, donc le canton de Berne, maintient sa participation de 10%. Et puis après, on a d'autres actionnaires minoritaires. Alors, je n'ai pas pu avoir malheureusement la liste de ces actionnaires, mais voilà, peuvent entrer au capital. Voilà. Alors, malgré les transformations en SA, hein, on nous caresse dans le sens du poil, on nous dit que le canton de Fribourg reste l'actionnaire dominant et conserve un contrôle stratégique, etc. Les EEF continuent à jouer un rôle clé dans la politique énergétique cantonale et blablabla et blablabla. J'ai pas pu avoir non plus une composition détaillée pour l'année 2001 du conseil d'administration. Voilà. Mais il y a voilà, il y a une gouvernance derrière qui se met en place avec des représentants, je pense, des cantons et puis des petits actionnaires minoritaires. Voilà. Et puis 2005-2006, grand chambardement, fusion officielle des EEF avec ENSA, donc l'entreprise neuchâteloise d'électricité et les EEF, d'accord. Et puis qui donne naissance à groupe ESA le 1er janvier 2006. Alors, évidemment, cette fusion, encore une fois, les bons mots, hein, renforce la position de l'entreprise comme un acteur énergétique majeur en Suisse occidentale, desservant 400 000 habitants dans le canton de Fribourg, Neuchâtel et Vaud, Broye, Pays d'en Haut, etc. Voilà, le groupe E devient un producteur et distributeur d'électricité avec 3000 tétrawatts disponibles distribués par an, voilà, etc., les détails. Bon. Bref, tout ça pour vous dire, messieurs, dames, que on est parti d'une entreprise qui a fait faillite, a été repris et mis comme parce qu'on avait besoin d'électricité. On peut pas bosser avec des gens qui font faillite, c'est pas possible. On peut pas, l'électricité doit être un domaine public, d'accord. Et puis donc l'État de Fribourg a repris Monsieur Guillaume Ritter, l'entreprise en faillite, et puis l'a amené au sommet, hein, à l'époque de sa gloire, tout en étant une régie d'État au service des gens, qui étaient gérés par le canton, etc., au service de la population, pour le bien-être de la population, avec différentes activités, bien sûr, qui ont été développées au fil du temps, différentes constructions, mais tout ça était régi, hein, par l'État de Fribourg, le département des eaux et forêts, qui s'occupait très bien de la chose. Pendant des décennies, ça a très bien fonctionné. C'est étonnant quand même, hein. Et je vois que certains bouillonnent derrière en se disant « Oui, je vois où ils vont venir, je vois où ils vont venir. » Oui. Alors, on va continuer. Donc, l'État de Fribourg continue à garder, soi-disant, le contrôle total. Mais derrière, 2005-2006, groupe E, et bien maintenant, on a un conseil d'administration où on a Philippe Virdis qui devient directeur général. Voilà, c'est un des leaders influents, d'accord. Et puis derrière, il y a aussi quelques conseillers d'État fribourgeois et puis des experts du secteur énergétique. Tiens, des experts du secteur énergétique. Alors peut-être il y a les fabricants de turbines. Non, je rigole, hein, mais parce que je n'ai pas réussi à obtenir les détails. Mais il aurait été bon d'avoir les détails de ces soi-disant, entre guillemets, ou peut-être vrais, hein, experts. D'accord. Parce que là, ça devient limite. D'accord. Voilà. De 2008 à 2015... Il y a des controverses quand même, parce que ça commence, notamment en 2008, ça a groupé, a suscité des polémiques en investissant 162 millions de francs dans une centrale à charbon en Allemagne. En contradiction avec son image axée sur le développement durable et blablabla et blablabla. Voilà. Alors, Philippe Virdis, hein, il défend notamment comme une nécessité pour sécuriser l'approvisionnement. Ah bon ? Alors, on est passé du canton de Fribourg, qui était pratiquement autonome en énergie, à une relation avec le canton de Berthe, suivi une relation avec Neuchâtel. Et puis maintenant, eh bien, on a une relation allemande. Bon, voilà. Alors derrière, ils ont créé, pour gérer tout ce petit monde et tout ça, ils ont créé Groupe E Green Watt, une filiale qui est dédiée en énergie renouvelable avec un plan d'investissement de 350 millions de francs d'ici à 2030. En 2015, hein, ils célèbrent à grands coups de voilà, les 100 ans des EEF. Mais les EEF n'existent plus. Hein, d'accord ? Et puis les 10 ans du groupe E. Voilà. Ils ont publié un ouvrage, ils ont organisé dans les différentes... J'ai été du reste à l'époque visiter... ils ont organisé des visites pour des barrages, différentes choses, des manifestations, etc. En mettant bien avant l'impact environnemental et sociétal de l'électricité, blablabla, blablabla. Bla, bla. Alors qu'en fait, derrière, eh ben, on rachetait, ils rachetaient, hein, et, ou ils investissaient dans des centrales à charbon. C'est quand même étonnant, mais c'est une vérité. Voilà. Donc ça, ça avait un peu secoué le cocotier. Voilà. Alors, le canton de Fribourg, jusque-là, est toujours, soi-disant, actionnaire, hein, et pas soi-disant, est actionnaire majoritaire à 80%. Et puis, il y a BKV toujours derrière. Et puis, il y a certains employés aussi qui peuvent être actionnaires, mais minoritaires. Voilà. Les liens, soi-disant, j'ai bien soi-disant parce qu'on n'a pas tous les détails. Puisque comme c'est devenu une entreprise privée, une SA, tous les trucs de réunion, de machin, de trucs, c'est soumis à des secrets, etc. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pratiquement plus rien savoir. Voilà. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui ont commencé à s'interroger, hein, notamment des députés, qui ont commencé à s'interroger sur les compétences des représentants cantonaux face aux enjeux complexes des marchés énergétiques. D'accord ? Alors, ils ont quand même un peu tourné la balance et puis il y a quand même maintenant des conseillers d'État fribourgeois qui sont mentionnés comme membres du conseil d'administration. Mais j'arrive pas à trouver des noms précis. Voilà. Et puis, la gouvernance a encore inclus des experts techniques et des représentants, des représentations de différents partis politiques. Voilà. Tout en sachant que quand on est dans un conseil d'administration, on peut toucher des jetons. Eh oui, on peut toucher du pépette, des pognons, du fric, du flouze. Intéressant, n'est-ce pas ? Hein ? À titre individuel, bien sûr. Hein ? Oui. Oui. Alors, de 2017 à 2025, on a... ils ouvrent encore des différents endroits, notamment un point de vente à Bulle en 2017, etc. C'est des petits détails, mais bon, ils essayent un peu de se faire bien voir, d'accord ? Et puis, en 2022, on apprend que le groupe emploie plus de 2500 collaborateurs et gère un réseau de distribution dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud. L'entreprise met l'accent sur la neutralité carbone. Ah ben oui, on revient. Hein. N'oubliez pas que derrière, on a en face une escroquerie énorme avec le GIEC, etc. Voilà. Et 2022, on nous bassine comme quoi c'est très bien, c'est très beau, tout va bien. Sauf que, ils commencent déjà à perdre du pognon et ils envisagent la suite un peu de manière assez bizarre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas oublier que ces entreprises-là sont comme des bateaux et qu'il y a un système d'inertie directionnelle qui rentre en ligne de compte. Et tout à coup, on a eu la guerre en Ukraine et c'est-à-dire l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, d'accord, pour éviter la propagation et le développement du nazisme, etc. Et la défense des citoyens russes, eh bien, qui se faisait bombarder, ou ukrainien, hein, mais de langue russophone, eh bien, qui se faisait bombarder en 2014, 2015, etc. Donc, ça faisait un moment que ça durait. Et puis là, on a reçu de cette entreprise une claque au niveau des tarifs. Les tarifs ont explosé. Et c'est dans tout le secteur. C'est-à-dire qu'ils sont tous mis d'accord à un moment donné pour augmenter et faire exploser les tarifs avec des arguments plus ou moins bidons. Hein, arguments du reste que j'avais dénoncé dans un courrier il y a 2 ans maintenant que tout un chacun pouvait envoyer au groupé ou alors à BKV ou d'autres fournisseurs d'électricité où ils se foutent royalement de notre gueule avec des termes complètement absurdes et ubuesques. Mais bon, voilà. Et puis aujourd'hui, pour venir à ce jour aujourd'hui, en 2025, hier, on apprend qu'ils licencient 188 personnes. Ça sent le gaz au groupé, ça sent le gaz. Ils font de l'électricité, mais ça sent le gaz. Il n'y a pas de quoi s'étonner un peu. Alors, je rappelle juste que c'est une entreprise qui provient d'une faillite privée, au départ. Et puis, est-ce que ça, on ne va pas refaire ça c'est-à-dire d'ici 2030, on aura le groupé en faillite et puis l'État devra reprendre. Et puis, en plus de ça, l'État devra éponger les dettes de ces gens-là. Parce qu'ils investissent en plus. Hein, on met 1 milliard par-ci, 2 millions par-là. Ils investissent, ces gens-là. Et par contre, qui fait les frais de tout ce merdier, de toute cette espèce d'escroquerie énergétique? Qui fait les frais? Eh bien, c'est les employés, les êtres humains. C'est 188 personnes, alors on peut nous bassiner, on peut nous faire un bain de siège avec l'histoire des plans sociaux et blablabla et blablabla. C'est 188 personnes qui vont perdre leur emploi. Voilà. Y a de quoi aussi, là aussi, s'interroger. Alors j'ai peut-être été un peu long dans ma description historique de ce qu'est devenu le groupe E à partir des entreprises électriques fribourgeoises, mais il fallait que ce soit dit à un moment donné. Il fallait que ce soit dit, il fallait que vous l'entendiez que suite à une faillite, c'est l'État qui reprend et puis là, on se dirige de nouveau vers quelques problèmes financiers parce qu'une entreprise qui restructure comme ça et qui biffe, alors qu'il y a 3 ans, j'avais bien, tout va bien, j'ai 2500 employés et puis là, qui biffe directement 188 emplois, c'est pas anodin, c'est pas anodin. D'accord. Alors, vous allez encore me dire, ouais, mais Monsieur Vermeil, vous ne savez pas de quoi vous causez, c'est plus complexe que ce que vous dites. Non, 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 non. Arrêtez de me parler à tout bout de champ de complexité de la problématique. C'est faux. C'est complètement faux. Et vous le savez très bien. D'accord. On a créé nos ancêtres. D'accord. Ont créé des services publics, ils savent très bien pourquoi ils ont créé des services publics. Sinon, pensez bien que depuis des décennies, des siècles, que l'homme a une activité sur Terre, les services publics n'existeraient pas si le privé était quelque chose de fantastique pour la gestion de biens communs. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les gens, à un moment donné, comprennent que il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter les conneries. Il faut qu'on revienne dans tous les secteurs où, on va dire, les biens doivent être partagés, d'accord ? Les frais doivent être partagés dans tous les secteurs. Je pense à la santé, je pense à la poste, je pense au transport, je pense à l'énergie, justement, le gaz, l'électricité, etc. C'est des besoins que dont tout un chacun a l'utilité tous les jours, et ces biens-là ne devraient pas être dans des mains privées. Elles devraient être gérées par l'État avec un droit de regard et une transparence totale, avec un T majuscule, la transparence, eh oui, totale, par l'État, et des régies d'État. Parce que, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et d'utiliser un mot que je commence à détester, c'est le mot « rentabilité ». Les services publics n'ont pas pour but premier d'être rentables. Justement, c'est pour ça qu'on les a transformés en services entre guillemets publics, parce qu'on sait très bien que il est difficile de les financer ou qu'elles s'autofinancent elles-mêmes. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas un master en économie, en droit ou je ne sais quoi, mais j'ai un minimum de on va dire de réflexion, de bon sens, et j'ai bien l'impression que le groupe est ça va faire comme un peu, vous savez, on doit sauver le Crédit Suisse, on doit sauver l'UBS, on doit sauver. En fait, on sauve des entreprises privées où derrière, vous avez des entités, d'autres entreprises qui ont peut-être profité de certains dons. Je pense par exemple pour les EF, le groupe E Greenwatt, la SA, ou d'autres entreprises créées, d'accord. Donc, on doit sauver des entreprises qui ont dilapidé du pognon, le pognon des contribuables. Voilà. Donc, on se retrouve dans 5 ans, hein, et puis on verra. On verra. Alors que les régies cantonales, gérées à échelle humaine, à taille humaine, et puis gérées par le canton, sous le contrôle de la population, avec une transparence totale, ont bien fonctionné pendant des décennies. Qu'est-ce qui a cloché ? L'avarice des gens ? Fortement. La mafia derrière qui s'est imposée, hein, je pense notamment dans certains pays où la gestion des déchets s'est retrouvée scandaleuse. Je me rappelle dans les années 80 en Italie, c'était devenu, et c'est encore aujourd'hui un peu, où la mafia s'est arrogé le droit de gérer les déchets et ça a été devenu une catastrophe. D'accord ? Alors, il y a de quoi aussi se poser bien des questions sur ce sujet-là. Je ne vais pas encore vous casser les oreilles pendant longtemps, hein, mais c'était juste pour vous expliquer que les entreprises, les régies d'État, les services publics ont leur raison d'être, d'exister, et doivent, d'une manière ou d'une autre, perdurer à travers les siècles et non pas être remis dans les mains de privés. Parce qu'on assiste aux dérives que l'on perçoit de plus en plus maintenant grâce à Internet, grâce à la rapidité des communications et des réactions des gens, on assiste de plus en plus à l'émergence des problématiques que ça pose. Encore une fois, si le privé était plus capable, était mieux capable de gérer des services communautaires, il y a longtemps que ça se saurait. Alors, soit l'être humain a la mémoire courte, soit la mafia est extrêmement puissante derrière et mène par le bout du nez tout le monde. Mais à un moment donné, il faudrait dire stop et puis qu'on revienne à une gestion plus judicieuse des ressources qu'on doit avoir, qu'on doit pouvoir utiliser de manière communautaire pour le bien-être des êtres humains. Voilà, ça c'était pour illustrer un peu mon propos concernant le respect des humains. Hein, il me semble que les êtres humains deviennent des valeurs jetables. Alors que ça devrait pas du tout être le cas. Moi, je m'interroge tous les jours du pourquoi, du comment on en arrive à de telles actions ou de telles inactions, d'accord ? Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui provoque ça ? Qu'est-ce qui provoque les inactions notamment ? Et je constate de plus en plus que c'est la peur, voilà. Peur de perdre ses acquis, son confort, sa sécurité. Et je me pose la question, et si ces peurs étaient orchestrées ? Que des politiques socio-économiques bien planifiées détruisent volontairement ce qu'on a construit pour imposer un système contrôlé par une caste qui, elle, se moque complètement de l'être humain, de l'humanité avec un H majuscule. C'est une question aussi. Profit, domination, contrôle. J'ai l'impression que c'est leur credo. Mais pourquoi nous, on reste tétanisés face à tout ça ? Pourquoi on reste inactifs face à tout ça ? Des fois, j'ai l'impression d'être le seul dans un désert à crier « Attention, attention, attention !» Et on me répond « Complotiste, complotiste !» Oui, mais j'ai l'impression des fois d'être le seul à crier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui va pas. Pourquoi les gens restent paralysés face à ce qui se passe. Alors la peur de tout perdre, oui, je sais. Mais si on voyait la chose dans l'autre sens, et si on arrêtait d'avoir peur ? Et si à un moment donné, pour arrêter d'avoir peur, on s'unissait pour dire un grand stop à ces malades mentaux, moi j'appelle ça des malades mentaux, des psychopathes autoprogrammés, d'accord, qui veulent imposer des espèces de choses qui ne sont pas du tout en faveur de l'espèce humaine, ni même, et c'est là que c'est paradoxal, c'est-à-dire que ce qu'ils proposent sous couvert de protection du climat, etc., c'est même contre nature, contre la nature avec un M majuscule. D'accord ? Un N majuscule, pardon. C'est contre la nature. Alors, si on s'unissait tous et qu'on disait stop, eh bien, je pense que, et c'est là qu'il faut vraiment s'interroger sur la chose, parce que je pense que les changements qu'on pourrait créer seraient des milliards de fois meilleurs que ce qu'on nous fait subir, que cette caste nous fait subir aujourd'hui. Alors, info ou intox, hein, la peur est-elle notre prison ou la clé pour se libérer ? Je pense qu'il serait temps de sortir la tête du sable, de s'éveiller, notamment d'éveiller notre esprit de participer et puis surtout d'agir, chacun selon ses moyens, ses possibilités, mais d'agir et dans le respect bien sûr de soi-même et des autres. Hein, je ne parle pas d'agir avec de la violence, non, mais d'agir, de prendre conscience que la clé, eh bien, elle est en nous-mêmes. Elle est en nous-mêmes et qu'il faut vraiment qu'on se bouge le popotin, comme dirait l'autre, hein, on se bouge les fesses pour que déjà on n'ait plus peur, que vous-même n'ayez plus peur, que nos voisins, vos amis, votre autour de vous n'aient plus peur. Et puis le fait de changer les choses, de toute façon, c'est pour quelque chose qui pourrait et qui est, même pas qui pourrait, qui est mille fois mieux. Bob Marley, tout le monde l'aura reconnu. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette émission, un peu longue avec cette partie historique pour l'explication sur les entreprises électriques fribourgeoises qui, au départ, sont parties ont été créées à partir d'une faillite, voilà, d'une entreprise privée. Eh oui, pour bien le... Voilà, je le redis parce que les gens croient que tout est... Non, le privé, c'est génial, etc. Non. Il faut remettre les choses dans le contexte, etc. Et même dans le contexte de l'époque. Donc, voilà. Que ce soit il y a 100 ans maintenant ou bien aujourd'hui, ça peut être exactement la même chose. Malgré l'évolution soi-disant technologique, la modernisation, etc., on est en train de constater qu'on tourne en boucle et qu'on prend les mêmes souvent et qu'on recommence. En attendant, derrière, il y en a qui se remplissent les poches. Voilà. Alors, on peut aussi s'interroger sur d'autres petits coups d'œil, là, des infos qui méritent qu'on s'interroge encore. C'est parce qu'on nous les resserre gentiment avec, notamment en France, les zones où les voitures plus de 10 ans n'ont plus le droit de circuler, etc. Donc les smart cities appellent ça, qu'on nous vend comme un futur, hein, comme on nous a vendu la poste privatisée, comme on nous a vendu le groupe E privatisé, etc. C'est pour la modernité, c'est pour le bien-être, le futur. Ouais. Vous avez vu le bien-être et le futur, hein? On a privatisé les services de santé, les assurances, les machins, les combines. La maladie, on se prend 6% tous les mois. Dans le baba. L'électricité, on s'est pris pratiquement 30%, 35%, des fois même plus, hein, notamment pour le gaz, donc l'énergie, etc. On se prend dans le baba. Et les smart cities, on va se les prendre aussi dans le baba. Hein. Soi-disant des villes connectées, écologiques. Ouais, on avait les quartiers à Lausanne, les quartiers écolos. Ouais. Mais bon. Mais qui décide à un moment donné dans tout ce merdier ce qu'on y fait dans ces villes, dans ces smart cities? Des algorithmes, des multinationales ou nous, êtres humains, hein? Posons-nous la question. Ensuite, les restrictions, par exemple, hein, un autre exemple de débilité profonde, les restrictions sur les semences paysannes en Europe. Pourquoi on interdit, par exemple, aux agriculteurs de replanter leurs propres graines? Sinon, pour donner le contrôle à des géants comme Monsanto et compagnie. Eh oui, petite question à la con, hein, mais quand même. Et puis, autre interrogation que vous pouvez avoir, c'est les coupures d'Internet dans certains pays lors de manifestations. Est-ce un hasard ou un moyen de bâillonner les populations? Voilà. Ces sujets, hein, c'est l'esprit d'humanité qu'on attaque. Alors encore une fois, hein, dans Info en Intox, on essaye de toucher le plus de gens possible et le plus d'esprit possible. Hein. Je ne dis pas qu'un être humain détient la vérité, non. Mais je dis qu'ensemble, on pourrait être mieux, surtout, si, au regard de ce que nos ancêtres, il y a des centaines d'années, ont construit, ont réalisé et ont fait. Regardez par exemple, proche de chez vous, les châteaux, les cathédrales, les différents monuments, les différentes réalisations qui ont été faites par l'homme, d'accord ? Il n'y avait pas de société privée, voilà. Alors, le progrès qu'on nous vend est-il pour nous ou contre nous ? Creusez, partagez, résistez, interrogez-vous, parce que... C'est de là que vient après les bonnes réflexions, les bonnes idées peut-être, d'accord ? Ce qu'on ne demande pas aux gens, c'est que leurs idées soient juste du premier coup, parce que ce qui permet de faire évoluer une société, ce qui permet de faire évoluer un être humain, je pense au bébé qui grandit, eh bien c'est les erreurs. Voilà, prenez un bébé qui apprend à marcher, qui va se taper la tête à une table, eh bien il va apprendre, alors dans la douleur vous me direz oui, mais il va apprendre. Et j'ai l'impression que plus je vieillis, hein, eh bien, plus l'être humain, en fait, n'apprend rien ou ne retient pas de ses leçons. Alors, est-ce qu'il est bâillonné ? Est-ce qu'il est décérébré ? J'entendais aujourd'hui sur X, quelqu'un qui disait « Oui, mais on se fait un peu avoir par la Croix-Rouge, par toutes ces sociétés qu'il faut, on soit dans la boîte aux lettres, Caritas, Croix-Rouge, etc. UNICEF et compagnie, on fait des dons pour l'asile, on fait des dons pour plein de choses. » Et puis, il y a quelqu'un qui a répondu « Mais il faudrait créer une application pour pouvoir justement faire la différence, etc. » Et ma réponse, ma réflexion spontanée a été de répondre « Attention, attention, et les applications décérèbrent, c'est-à-dire enlèvent le cerveau, enlèvent la réflexion à l'être humain. » Et je crois que ça, il faut y penser aussi. Il faut qu'on arrête d'être sur notre... notamment pour les jeunes, la nouvelle génération, les vieux encore, on a encore cette capacité d'aller boire l'apéro au bistrot et de pouvoir communiquer entre nous de manière, on va dire, conventionnelle. Voilà. Donc, ne cessons jamais de nous interroger, de partager, de discuter. Quand je constate les échos hein, des sites, par exemple, de rencontres, pour voilà, quand je constate les échos de ceux qui se plaignent qu'on ne respecte pas leur transsexualité ou je ne sais pas quelle voilà, je me dis qu'à un moment donné, ça serait peut-être à ces gens de se remettre en question et puis aussi à la société de manière globale, c'est-à-dire qu'il y a tout un chacun ensemble, qu'on réfléchisse ce qu'on veut pour l'humanité, pour nos enfants, parce que n'oublions pas que c'est nos enfants qui, demain, eh bien, seront peut-être à ce micro ou à d'autres micros, qui demain, voilà, alors quel merdier on est en train de leur laisser aux générations futures, quel merdier on est en train de leur laisser. Tout ça au nom du profit, tout ça au nom de l'esclavagisme qui ne dit pas son nom. Voilà. Bon, ce sera tout pour ce soir, hein. Mais continuez à faire fonctionner vos neurones, à vous questionner, à chercher. Puis surtout, hein, comme je l'ai déjà dit et je le répète, ne gobez pas tout ce qu'on vous sert, hein. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram de la radio pour participer, poser vos questions et aussi à soutenir Radio Électron Libre et l'association qui la chapeaute, Humanum Contactus. Voilà, les liens sont en bas de la page d'accueil, comme je l'ai dit en début d'émission. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre, on va dire une autre plongée dans un bain de vérité ou pas. Hein. Mais d'ici là, restez libres, restez curieux et surtout restez des électrons.